aujourd'hui, rencontre amoureuse avec une langue charnelle ou comment le yiddish fait poésie et captive aujourd'hui une nouvelle génération avec la cinéaste Nurit Aviv, le chercheur Arnaud Bicard, l'éditeur et écrivain Gilles Rosier.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Enfant à Tel Aviv, j'entendais parler le yiddish un peu partout. Cette langue différente, mais si proche de l'allemand, suscitait chez le juif allemand qui m'entourait un certain mépris. À l'école, le yiddish était maudit. Plus que toute autre langue, il représentait l'exil et la mort. Mais dans cette langue, où dialoguent l'allemand, l'hébreu, l'araméen, les langues slaves et romanes, a pu voir le jour entre les deux guerres une poésie étonnante.
Ils sont sept, ils sont jeunes, ils vivent, ils cherchent, ils traduisent, ils transmettent, ils écrivent à Berlin, à Paris, à Varsovie, à Tel Aviv ou à Vilnius. Tous sont liés par le yiddish qu'ils ont choisi, pour des raisons familiales, géographiques, parfois intellectuelles, ou en tout cas par joie des langues, de cette langue-là en particulier, et souvent par goût de la poésie. Sept plus vous, Nurit Aviv, que l'on vient d'entendre dans le prologue de votre film Yiddish, qui paraît en livre DVD aux éditions du Montparnasse. Bonjour Nurit Aviv.
Bonjour Manu Farine.
Alors avant d'en venir au dispositif qui donne forme à ce documentaire et au livre, un mot peut-être sur ce qu'on vient d'entendre et qu'on ne voit donc pas. À l'écran, une plage, la mer, des baigneurs au loin. Qu'est-ce que cette ouverture pose d'emblée, ce plan sur la mer? Qu'est-ce qu'il dit de ce qu'il s'agit de filmer pour vous?
On a entendu mon prologue, mais si on regarde un peu plus tard dans le film, il y a un poème extraordinaire de Halperin et où Valentina lit, et le poème dit qu'il voit de loin la mort. C'est dans le vague de la mer à 10 heures du matin. J'ai tourné à 10 heures du matin à Tel Aviv. Et là, tout est coloré, tout est bien, il y a des milliers de beignets. Et il entrevoit de loin la mort. Et c'est vraiment un très, très beau poème. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai commencé le film avec mon texte sur, dans ces cas, sur Tel Aviv, à 10 heures du matin, la mer de Tel Aviv, qui est ma ville natale.
Alors, ce poème, justement, que vous évoquez, qui s'appelle Memento Mori, on va l'entendre tout à l'heure, tel qu'il est lu dans votre documentaire. Ce documentaire, c'est aussi lier la langue à un lieu. Alors, en l'occurrence, dans le prologue qu'on vient d'entendre, c'était Tel Aviv. Mais les lieux, de manière générale, donnent la structure au film. Berlin, Paris, Vilnius, Varsovie, Tel Aviv. Autant de lieux, autant de poèmes. Chaque protagoniste étant filmé l'un après l'autre dans sa ville et dans son lieu de vie, c'est-à-dire dans la ville et dans son lieu intime. Quel sens est-ce que prend cette notion de lieu, Nurit Aviv, dès lors qu'il est question de yiddish, cette langue qui apparemment est sans territoire, ou en tout cas territoire multiple?
Voilà, vous l'avez dit, elle est partout, elle est multi, elle est plurielle, et elle est nulle part. C'est-à-dire que c'était dans toutes les villes que le yiddish, la poésie yiddish, cette poésie dont on parle dans le film d'avant-garde, et où de jeunes poètes et ont écrit cette poésie d'avant-garde extraordinaire, et que de jeunes protagonistes qui ont à peu près le même âge parlent de leur amour, de leur passion, de cette poésie. Et elle était justement partout, elle était dans tous les continents à l'époque. Il y avait des lecteurs dans tous les continents.
Cette langue présente dans tous les continents, on l'a entendu dans le prologue, Nurit Aviv, vous la dites maudite, Vous parlez même du mépris.
À l'époque.
Oui. À la vôtre. Ça revient dans la bouche des protagonistes. On va y revenir, bien sûr, sur ce mépris qui a pesé sur le yiddish. Cette langue que le poète Dori Manor, l'un des 7 protagonistes de votre film, et qui lui vit à Tel Aviv, évoque comme ceci.
סממנים של אימה ושל פחד כי נזכרתי בשואה ואני זוכר ש...
C'est une langue dans laquelle je voyais des traces de terreur et de crainte, car elle me rappelait la Shoah. Je me souviens d'un boucher, pas loin de la maison, avec un tatouage là, et il parlait yiddish. Aussitôt revenaient nos souvenirs fabriqués, et la guerre, une peur terrible. D'un autre côté, le yiddish représentait aussi une sorte d'humour lourd. Le yiddish est drôle, c'est la langue du shtetl, des bourgades d'Europe de l'Est. Bref, je n'ai pas accroché. C'est une langue qui ne m'attirait pas du tout. En cela, je n'étais pas une exception. Les Israéliens de ma génération n'aimaient pas le yiddish. Le yiddish représentait tout ce qui était mauvais. Le yiddish représentait la diaspora, le yiddish représentait la faiblesse, la féminité. Et nous ici, nous qui avons voulu construire quelque chose de nouveau, de fort, de militaire, quelque chose de viril. Alors comment aimer le yiddish? Comment aimer le yiddish, c'est au fond aussi la question que vous commencez par poser à chacun des 7 protagonistes du film, 3 hommes et 4 femmes, Nurit Aviv. Vous, comment l'avez-vous aimé, le yiddish?
Mais il fallait que je passe par Paris, mais c'est ça la suite de ce que Dori va dire, que lui... Et c'est quand il était à Paris, il a rencontré cette poésie, cette langue, et il est tombé amoureux, comme tous les autres protagonistes. C'est vraiment pour tous une rencontre, et je dirais une rencontre amoureuse. Hein. Et ils sont tous passionnés, et aucun d'eux a eu la langue comme langue d'enfance, hein, aucun. Et ils ont tous, c'est une rencontre pour tous, hein, une découverte. Et après, ils sont restés, ils ont tombé amoureux et ils sont tous passionnés de la langue. Et en fait, dans le film, ils parlent de leur passion. Et ils nous font découvrir un par un sept poètes yiddish qu'ils vont chacun lire en yiddish.
Mais vous, Nurit Aviv, quel rapport est-ce que vous entretenez avec cette langue aujourd'hui? Alors, je dis ça parce que la question de la langue, elle est... évidemment au cœur de votre filmographie, hein, vous avez tourné autour de l'hébreu, la langue des signes, de la traduction, et le yiddish n'arrive finalement que maintenant, 30 ans après votre premier film.
Oui, vous avez dit la langue des signes.
Oui.
Et ça vient après le film sur la langue des signes, qui s'appelle Signer, sur les langues des signes au pluriel, qui s'appelle Signer. Et en fait, sur Signer, sur les langues des signes, on a dit que c'est pas des langues et qu'ils n'ont pas des grammaires. Et ça m'a rappelé quelque chose, parce que c'est ça qu'on avait dit sur l'yiddish, que c'est pas une vraie langue, c'est un jargon, et que ça n'a pas de grammaire. Et bon, je me suis dit, voilà, c'est la question n'est même pas là quand on écoute cette poésie extraordinaire, une poésie que justement, une poésie d'avant-garde. Une poésie que pas beaucoup de gens connaissent, mais qui est une poésie que j'ai découvert, comme tous les autres, qui est vraiment extraordinaire. Et j'avais envie de la faire connaître, cette poésie. Et la question était pour moi, comment, vraiment c'était ça la question, comment filmer la poésie, hein? Comment filmer la poésie? Je voulais qu'on entende le yiddish et qu'on voit. Vous voyez donc qu'on l'entend, la langue, en yiddish, et qu'on voit la traduction, pas en sous-titres, mais en forme de colonne, comme est écrite la poésie. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce dispositif où je partage l'écran et en deux, où on voit en très gros plan la personne qui lit, qui vraiment sent que c'est une poésie incarnée, parce qu'on est très proche, de la bouche, on est très proche des lèvres, hein, et on est d'ailleurs les lèvres qui se disent Safa, la lèvre qui se dit Safa, qui veut dire la langue. Hein, donc c'est vraiment, c'est comme s'il donnait le souffle, Et le regard, il est comme s'il y avait le regard vers les textes, et c'est le texte de la traduction de ces poèmes qu'on voit en forme d'image. Hein. Pour moi, c'est aussi une image, hein. C'est pas un sous-titre, elle est là, présente, comme la bouche, comme les yeux.
Oui, qui prend là, à l'écran, qui prend la même place que ces visages filmés en plan très très serré, qui disent le poème.
Avec la bouche, oui, qui souffle le poème, hein, et qui regarde la traduction, et la traduction faite par Arnaud, qui est là, et aussi...
Arnaud Bicard, bonjour.
Arnaud Bicard, qui a traduit tous les sous-titres, les poèmes, et il y a quelques poèmes que Mathias Baum a traduit, mais c'est lui qui a traduit l'ensemble du film, y compris les poèmes.
Alors, il y a Gilles Rosier qui est là aussi, j'espère qu'il nous entend bien. On parlera tout à l'heure des éditions Antilope qui publient notamment de la littérature en yiddish. Le yiddish pour vous, Gilles Rosier, ce sont des mots ça et là glissés dans la langue de votre mère enfant, il y a encore très peu. Votre mère, qui écrivez-vous dans votre roman Mikado d'enfance, hein, qui est paru en 2019, a tout fait pour vous écarter ou vous préserver, c'est selon, de votre histoire, une enfance sans religion, sans judéité et sans yiddish. Donc, par où passe votre rencontre avec cette langue, puisque Nurit Aviv parlait tout à l'heure presque de rencontre amoureuse avec le yiddish. Vous comprenez ça?
Bon, bonjour.
Bonjour.
Alors, malgré tout, c'était une religion et avec un peu de yiddish quand même, puisque ma mère n'avait plus ses parents, mais elle avait des oncles et des tantes qui ne lui parlaient qu'en yiddish, que je voyais de temps en temps, donc je les entendais parler à ma mère en yiddish, donc c'était quand même un tout peu une langue d'enfance que j'ai commencé à pouvoir saisir parce que je faisais de l'allemand à l'école et que j'étais bon en langue, donc petit à petit j'ai commencé à saisir des choses. Et là, j'ai approfondi, mais surtout, c'était par l'intermédiaire de la figure de mon grand-père, qui a été assassiné à Auschwitz, donc que je n'ai pas connu. Et je voulais absolument mettre sa langue dans ma bouche.
Gilles Rosier, excusez-moi.
Un désir irrépressible.
Excusez-moi, je suis désolée.
Si, je parle d'il y a 30 ans, on me disait « apprends l'hébreu ».
Gilles Rosier, je ne sais pas si vous m'entendez, mais la liaison est vraiment très très mauvaise, donc on va vous rappeler par téléphone, ça sera plus simple, et puis on vous récupère très 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 vite. Toutes mes excuses hein, pour ces petits soucis techniques. Arnaud Bicard, de quoi est-elle faite cette langue, ce yiddish, cette langue difforme, cette langue bégayante, comme dit Moïse Mendelssohn au XVIIIe siècle, hein, celle qui empêcherait les Juifs de devenir pleinement citoyens allemands. De quoi est-elle faite ?
Oui, on l'a beaucoup méprisé pour son caractère de langue de fusion, car il s'agit d'une langue qui est composée de mots d'origine différente, une base germanique et des composantes, une forte composante hébraïco-araméenne, une composante slave. De mots qui sont qu'on le retrouve dans le polonais, dans le l'ukrainien, dans le russe, et un très vieux substrat roman, c'est-à-dire qui proviendrait de l'ancien français ou de l'ancien italien. Et ça, c'est la description que nous en donnent les linguistes. Si ensuite bien sûr, tout ce mépris n'est pas lié seulement à ce caractère composite. On a tendance à dire que c'est une langue qui a volé ou qui a dérobé des mots et qui n'a pas d'âme propre. C'est plus le mépris est né de phénomènes sociaux. Et les idéologies linguistiques qui se sont greffées sur le fait qu'on méprisait les populations juives d'Europe de l'Est, c'est quelque chose qui vient par-dessus un mépris qui existait déjà. Donc le yiddish a été déconsidéré en raison en particulier du fait qu'on méprisait le mode de vie des juifs religieux qui parlaient.
Alors, je crains que ça ne soit pas terrible non plus la liaison Arnaud Bicard avec vous. On va essayer, on va continuer quand même. Par rapport à vous, ce que vous disiez justement sur ce mépris, et il en est question dans le film de Nurit Aviv, de la figure de Kafka évidemment, et de son discours sur la langue yiddish en 1912, au moment où il va revenir vraiment au théâtre yiddish, et où il explique qu'il ne croit pas à la figure du grand écrivain ou du grand poète en yiddish. Qu'est-ce qui résiste encore à ce moment-là, Arnaud Bicard? Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai peur qu'Arnaud Bicard, que nous ayons perdu Arnaud Bicard également. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Ce qui résiste en particulier pour un écrivain comme Kafka, c'est... Ah bon, vous m'entendez plus? Moi, je vous entends très bien. Chez moi, tout fonctionne.
Ça y est, je vous réentends.
L'entrée fonctionne également.
Ça donne une espèce de rythmique un peu étrange. Vous accélérez, vous ralentissez, d'accord. Mais je vous entends.
Balbutiant.
C'est ça.
Très bien.
Ça bégaye.
Je disais que pour un auteur comme Kafka, le yiddish est une langue qui il l'aperçoit au travers du regard de son père, de ses parents et de l'éducation germanique et de sa culture qui est une culture allemande d'admiration pour les grands auteurs, pour Goethe. Et le yiddish pour lui et il le vit comme une bénédiction parce qu'il est tombé amoureux du yiddish lui aussi, et lui souffrait du poids des grands auteurs de la langue allemande, et le yiddish était associé par lui à l'enfance, à l'innocence, à une sorte, ce qui était une image d'Épinal, ce qui ne correspond pas à une réalité. Le yiddish avait bien entendu du temps de Kafka ses grands auteurs, des auteurs comme Yitzhak Leibush Peretz, comme Sholem Aleichem ou Mendel Moichos Forim, qui sont des qu'on a nommé les classiques de la littérature yiddish et qui étaient encore vivants au moment où Kafka écrivait ses lignes sur le yiddish. Kafka ne les connaissait pas ou les connaissait de façon extrêmement déformée. Et pour lui, le yiddish était associé à un théâtre populaire, à des chansons populaires, et donc il est dans sa vision, ça ne pouvait pas être une langue littéraire ambitieuse, et j'allais dire que c'était tant mieux, c'était dans son esprit, c'était plutôt une bonne chose.
Vous parliez, quand vous parliez du mépris social aussi qu'il pouvait y avoir à l'égard du yiddish, justement quand on arrive à ce moment entre, disons, grosso modo entre les deux guerres, hein, qui commencent un petit peu avant quand même, donc quand les poètes et la scène littéraire d'avant-garde s'emparent du yiddish, que le yiddish va occuper les revues, les lectures, le théâtre bien sûr, tous ces poètes justement dont il est question dans le film de Nurit Aviv, ce choix-là du yiddish à ce moment-là, c'est aussi ou c'est d'abord un choix politique?
Alors, il y a des cas de figure qui sont assez différents. Oui, des cas de figure assez différents en fonction des auteurs. Pour bon nombre d'entre eux, dans la génération qui est celle que nous présente Nurit Aviv, le yiddish est un choix évident. C'est leur langue maternelle. Ils ont l'exemple de grands auteurs qui les ont précédés. Leur engagement pour le yiddish est un engagement pour la littérature. Donc ce n'est pas seulement ou pas d'abord un engagement pour la langue, c'est un engagement littéraire. Ils veulent écrire dans leur langue, ils connaissent des écrivains comme ceux que j'ai cités précédemment qu'ils admirent. Même les écrivains d'avant-garde n'étaient pas pure rébellion. Ils étaient rébellion contre ses aînés, mais ils transportaient dans leur révolte une admiration pour les auteurs comme Yitzhak Leibowitz Peretz. Mais il existe des cas plus particuliers, très très intéressants aussi, comme l'une des poétesses que l'on entend, que l'on voit dans le film de Nourrit Aviv, Deborah Vogel, qui n'avait pas le yiddish comme langue maternelle. Et son cas est très significatif et très curieux. Elle était polonophone. Elle est dans sa famille, on parlait polonais. Elle vivait à Lemberg, Lviv, et c'est le sentiment de rejet de la part des intellectuels polonais et du monde polonophone, c'est le sentiment que l'antisémitisme était pesant, qui lui a fait décider consciemment d'écrire en yiddish, de composer ses poèmes en yiddish. Et elle a cessé, à partir d'un certain moment, d'écrire ses poèmes en polonais pour cette raison-là. Donc ça, c'est un cas particulier qui n'est pas celui de l'essentiel de la plupart des poètes concernés.
Alors justement, puisque vous parlez de Deborah Vogel, on écoute une lecture d'un poème sur les yeux, qui est une lecture qu'on entend dans le film de Nourrit Aviv.
Alit wegen Eugen. Eugen können glühen wie zwei harte Kastanfruchten, zwei harte Kerner Treuerigkeit in dem gelben Blechbrot von Gassen.
Les yeux peuvent luire comme deux châtaignes dures, deux noyaux durs de tristesse dans la poêle en tôle jaune des rues. Parfois, ce sont deux dates tranquilles, des dates faites de lourdes gouttes d'attente qui t'attirent dans des rues vides aux lanternes jaunes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des taches de velours brun et tombent lourdement, douces gouttes de renonciation, sur les rues, les lanternes et les corps, dont plus rien ne peut sortir. Ce poème-là qui s'appelle donc « Un poème sur les yeux ». Nourrit Aviv veut choisir d'ancrer le documentaire sur la poésie, et précisément sur cette poésie-là d'avant-guerre hein, en particulier. C'était dire avant tout que le yiddish c'était autre chose qu'une culture du shtetl ou que la culture d'un peuple disparu, d'un peuple assassiné.
Oui, justement, c'était montrer qu'il y avait aussi cette volonté de être en contact avec tout le mouvement littéraire et aussi de la peinture moderne de l'époque. Et bon, il y avait vraiment des contacts avec tout le mouvement surréaliste, constructiviste, etc. Et voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé, c'est une poésie dans laquelle, dans le film, personne dit qu'il est juif entre les poètes. Mais ils écrivent dans la langue juive par excellence. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que ces rapports-là à la langue, sans que forcément on parle d'identité juive, mais c'est la langue juive. Hein. Et moi, ça m'a vraiment fasciné cette possibilité-là, et qu'il se trouve que c'est celle-là qui parle à tant de jeunes aujourd'hui. Hein. Et je trouvais ces gens qui sont justement passionnés par cette poésie-là.
Alors, il y en a un, par rapport à ce que vous dites, Nourrit Aviv, il y en a un dans le film, je crois que c'est Raphaël Koenig, qui raconte, qui s'attarde donc sur Kafka, et qui lui dit que le yiddish peut être aussi, au fond, ce qui permet de répondre à la question de l'identité juive, ou en tout cas trouver un récit à l'identité juive, malgré tout.
Il ne parle pas d'identité, il parle du récit.
Du récit,
oui. Oui, c'est-à-dire que Kafka a cherché un récit, et il s'est plaigné qu'il n'a pas de récit dans la lettre au père. Il s'est plaigné qu'il n'y a pas dans d'autres endroits. Et là, il avait l'impression de trouver un récit, que c'était différent. Et Raphaël, peut-être, qui vient d'une famille très intégrée, il cherche aussi ses récits. Hein. Il cherche un récit. Et ce n'est pas le même de Kafka, c'est un autre. Hein.
Il dit que Kafka cherche une façon de donner un sens au fait d'être juif et que le yiddish mm-hmm. peut éventuellement lui donner des pistes à ce moment-là.
Oui, et pour Raphaël, c'est d'autres pistes. Hein. Oui. Ce n'est pas le même de Kafka. Parce que justement, Kafka n'a pas imaginé qu'au moment où il a écrit, il y avait déjà de l'avant-garde dans l'air. Il savait aussi, et il parle de Markish, hein, qui était vraiment un poète extraordinaire et très rénovateur. Il écrit peut-être 10 ans plus tard, mais Kafka n'a pas imaginé que ça soit possible.
Alors ces années dont vous parlez, dont le film parle et dont tous ces jeunes gens parlent d'entre-deux-guerres ne sont pas des années, alors c'est véritablement un âge d'or de la poésie yiddish, et d'une poésie d'avant-garde yiddish. Ce ne sont pas pour autant des années pacifiques, hein, donc il y a la guerre civile évidemment en Russie, des pogroms toujours. Et l'un des protagonistes du film raconte comment Avrom Soutskever, donc l'immense poète, hein, écrivait dans le ghetto de Vilnius et que c'était pour lui comme un acte de révolte. Et elle rapporte comment, alors qu'il s'échappe du ghetto, il traverse un champ de mines et que, ne sachant pas où poser le pied, il avance au rythme des vers qu'il se récite dans sa tête, persuadé que la poésie lui sauverait la vie, ce qui sera le cas par ailleurs.
Oui, exactement.
Et à entendre cette histoire, au fond, quelle est la place du poète à ce moment-là dans la culture yiddish ? Parce que c'est, on pense pas. Alors on va revenir justement sur ce qui appelle la poésie dans cette langue-là. Mais quelle est la place du poète à ce moment-là ?
Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans le film, elle va lire le poème qu'il a lu quand les Allemands étaient déjà à la porte. Il y avait une soirée littéraire et il va lire un poème. C'est-à-dire, il va lire un poème. C'est-à-dire, ils étaient là. Imaginez. La guerre est à la porte et ils vont se retrouver pour faire la lecture de leur poème, de leur livre qui vient. C'est son livre qu'il vient de publier. Et même Raphaël, il dit, bon, qu'il y avait, quand Markish a lu, Markish qui était aussi très très beau, vous imaginez, et il paraît que quand il a lu dans une salle, les gens se sont accrochés sur la fenêtre de l'extérieur. Et Raphaël dit que c'est comme un concert de rock aujourd'hui, hein. Et tellement que ça faisait partie de la vie de tout le monde de la poésie, hein, à l'époque. C'est vraiment, c'était tellement foisonnant, florissant cette culture-là, qu'elle était très, très écoutée et très, les gens, ça faisait partie de leur vie. Et il y a une autre intervenant, Migle. Elle dit qu'elle a lu biographies qu'on a demandé à des jeunes gens d'écrire pour Ivo.
Des autobiographies.
Oui. Et en fait, on ne leur a pas demandé d'écrire des poèmes. On leur a dit juste racontez votre vie, faites rien de littéraire. Et il se trouve que plein de ces jeunes gens, ils ont écrit quand même des poèmes. Parce que la poésie faisait tellement partie de leur vie que quand ils devaient écrire leur autobiographie, certains ont écrit en forme de poème. C'est tellement, ça faisait partie de la vie, la poésie.
À les entendre justement, ces sept-là hein, qu'on suit au gré des villes et au gré des poèmes dans le film, Nourrit à vivre, on a presque le sentiment qu'il y aurait une sorte de corrélation ou une prédisposition, disons, du yiddish, de la langue yiddish à la poésie. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, Nourrit à vivre ? Peut-être Gilles Rosier, non. Peut-être que vous êtes revenu parmi nous ?
Oui, ah. Je suis là. Bon. Oui, moi j'ai la sensation que ce succès de la poésie dans le monde yiddish, notamment à partir des années 20, c'est le sujet le succès de toute une génération de jeunes gens dont quasiment tous les parents étaient des juifs orthodoxes. Hein. Il y a très peu d'écrivains yiddish dont les parents, enfin de cette génération, dont les parents n'étaient pas pratiquants, et qui en fait, au moment où ils quittent le monde du religieux, ont besoin de lui substituer autre chose. Et donc la poésie yiddish, c'est comme une substitution laïque, culturelle, à la prière, au texte religieux. C'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Alors la prédisposition du yiddish
au poème.
Je suis pas sûr parce que je crois que toutes les langues ont une poésie. Cela dit, le yiddish est une langue assez souple, donc effectivement, elle se prête pas mal à la poésie. Et c'est une langue comme l'allemand qui fonctionne avec une logique de syllabes accentuées, non pas comme le français qui compte les pieds, les alexandrins, etc. Donc, on peut faire pas mal de choses en poésie en yiddish, effectivement.
C'est une langue qui a une grammaire plus souple que celle de l'allemand, sans parler d'absence de grammaire, comme le dirait Kafka.
Alors, il y a tout à fait une grammaire. Il y a à la fois une grammaire un petit peu comparable à celle de l'allemand, où on peut mettre des mots un petit peu où on veut, à condition qu'on mette le verbe en deuxième position de la phrase. Mais c'est aussi une langue qui puise dans tellement de registres linguistiques. On a dit l'allemand, l'hébreu, l'araméen, les langues slaves, certains apports de langue romane, qu'en fait on peut choisir des éléments du lexique en fonction de ce qu'on veut dire et en fonction de la rime que l'on veut trouver.
Alors justement, c'est ce que Nurit Aviv évoquait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire ce plan, ce procédé qu'elle a choisi pour chacune des lectures, c'est-à-dire cet écran coupé en deux avec la lecture du poème et sa traduction écrite à côté. Au fond, ce que vous filmez, c'est aussi l'opération de traduction. On écoute tout de suite le poème dont vous parliez justement, Nurit Aviv, tout à l'heure, de Moïse Leib Alpern, dit par Valentina Fetchenko.
Memento mori. Unas Moïse Leib der poet ve der zeilen, azerot dem toit av di chvalies gesehen. Azoi vi mezet zich allein in a spiegel, und os in der frigor, azoi arum zein. Sie wird man das Glauben, Moishe Leib? Und als Moishe Leib hat dem Teut von der
Weide... Et lorsque Moishe Leib, le poète, dira qu'il a sur les vagues entreaperçu la mort, aussi simplement qu'on se voit dans un miroir, et le matin en plus, comme ça, vers 10 heures, est-ce qu'on ira le croire, Moishe Leib? Et lorsque Moishe Leib a salué la mort, de loin, avec la main, et demandé « ça va ?» Justement, au moment où des milliers de gens dans l'eau jouissaient follement de la vie, est-ce qu'on ira le croire, Moïse Leib? Et lorsque Moïse Leib, en larmes, jurera qu'il s'est alors senti attiré par la mort, comme l'amant languissant attiré au soir par la fenêtre d'une femme qu'il vénère, est-ce qu'on ira le croire, Moïse Leib? Et lorsque Moïse Leib leur dépeindra la mort, non pas sombre et grise, mais belle et colorée, comme elle s'est présentée au loin vers 10 heures, d'elle-même, là-bas, entre vague et ciel, est-ce qu'on ira le croire, Moïse Leib?
Si wird man das glauben, Moïse Leib?
Cette langue qui absorbe tant d'autres langues, est-ce qu'elle rend la traduction plus joyeuse ou plus difficile, Arnaud Bicard, vous qui êtes chercheur à l'INALCO, traducteur, et avez précisément traduit ce poème-là pour le film?
Oui, moi je pense qu'elle rend la traduction difficile. Ce n'est pas tant... Alors la variété des composantes linguistiques est un obstacle lorsque celle-ci est exploitée de façon volontaire par les poètes, parce que on ne peut, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reproduire dans une traduction en français, c'est cette multiplicité linguistique. On est obligé de traduire tous les termes hébraïques et tous les termes germaniques, on les traduit nous dans la même langue. Or, le yiddish peut parfaitement, consciemment et clairement placer un terme hébreu à telle place et il est très important que ce terme hébreu soit là. C'est à la fois un terme hébreu et un terme yiddish puisqu'il fait partie de la langue. Donc c'est quelque chose que la traduction ne peut pas rendre. On est obligé de trouver des expédients pour s'en acquitter. Et il y a une autre chose, c'est pas seulement cette hybridité du yiddish, il y a également son oralité. C'est une langue très orale. Le poème de Moïse Leib Alperm, qui pourrait sembler d'abord un peu solennel, étant donné son thème et puis son titre, Memento Mori, est en réalité un poème très oral. Et dans la traduction, l'une de mes tâches, de ce que j'ai voulu faire, c'est de garder cette oralité. Et j'espère y être arrivé.
Quelle place est-ce qu'il occupe d'ailleurs, Moïse Leib Alperm, dans ce bouillonnement littéraire?
Alors,
parce que sa place est un peu différente de la sienne.
C'est un poète extrêmement intéressant. Il est à la fois, il fait partie, tout en étant un peu à la marge, il fait partie d'un groupe qu'on a nommé Die Jung, les jeunes, et qui était de jeunes poètes récemment immigrés aux États-Unis, qui ont commencé à publier et à se réunir dans des revues dans le New York des années 1910. Et il a toujours gardé une position un peu d'outsider, marginal. C'est une sorte de Pierrot, à la fois triste et joyeux dans ses vers. Il y a une légèreté dans ce qui est le plus difficile. Il a une réelle originalité, mais l'admiration qu'il a créée autour de lui l'a raccroché à la plupart des modernismes, et même les modernistes qui sont nés en Europe dans les années 20 reconnaissaient en Moïse Leib Alperm un guide.
Il y a quelque chose, alors on l'a entendu peut-être alors brièvement, mais il faut vraiment voir le film pour s'en rendre compte, Nurit Aviv, quand on écoute, quand on regarde ces sept jeunes gens, jeunes chercheurs ou traducteurs parler alors de la poésie yiddish, mais parler aussi en yiddish, ce que vous filmez, que vous donnez à voir, c'est aussi le plaisir de la langue, hein, c'est-à-dire le plaisir qu'ils ont tous à la parler, enfin tous, sauf une, hein, y en a une qui s'exprime en anglais, le plaisir qu'ils ont tous à parler en yiddish, et une joie certaine, même si pour la plupart ils ont choisi le yiddish pour des raisons tout à fait différentes, hein, certains par curiosité, d'autres pour la musique de la langue, d'autres sont passés par l'hébreu, par hasard, par manque, certains évidemment pour combler un trou, hein, celui des morts ou celui des vivants qui l'ont écarté parce que c'était la langue des morts. Comme une rencontre amoureuse, comme vous le disiez, comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là dans cette langue, quelque chose de très charnel, ou en tout cas de très désirable, hein, qui tiendrait à quoi, Nurit Aviv?
En effet, il faut dire qu'il y a seulement trois qui parlent en yiddish, hein, et dans le film, et il y en a deux qui parlent hébreu, un qui parle français, un qui parle l'anglais. Et justement, j'aimais beaucoup qu'il y a toute cette pluralité de langues, à la limite, pour parler du yiddish. Mais et en effet, on a cette impression de charnel. Hein. On a cette impression de que c'est une langue charnelle. Et j'avais vraiment envie qu'il y a cette incarnation de la langue en filmant les gens comme je l'ai filmé, pendant qu'il parle, hein, et pendant qu'il lit la poésie. Mais dans la parole, quand ils racontent leur rencontre, chacun avec la langue, ils sont chez eux à la maison. Hein. Mm-hmm. Et c'est que j'ai trouvé, peut-être après coup, et c'est qu'en fait, chacun, on voit chacun dans sa ville, il rentre chacun dans sa maison.
Vous les filmez toujours au moment où ils passent le pas de la porte, où ils rentrent chez eux. Et ensuite, vous y a
oui,
toujours un
plan
chez eux.
Oui, on le voit dans la rue, mm-hmm. Ils rentrent chez eux, qui est un peu le heimlich, hein, le homely. Mais en même temps, il y a, vous savez, en hébreu, on dit pour la maison bait. Mais ce qui est intéressant, en hébreu, on dit pour la strophe, on dit bait aussi. Et il se trouve que, comme s'ils rentraient dans leur bait, dans la maison, et après, ils vont lire un bait, une strophe, dans le poème. Hein. Mm-hmm. Et dans cette langue, que pour moi, elle a quelque chose de unheimlich, vous savez, qui est un peu...
D'inconfortable.
Les deux, c'est-à-dire qu'en Amish, il y a et les contrées un peu étranges, et en même temps les côtés familiers. Et pour moi, cette langue, elle est en même temps familier et étrangère, parce qu'elle est familier, parce que je viens d'une famille où on a parlé l'allemand, donc je comprends en grande partie. Après, elle s'écrit en lettres hébraïques, bien que c'est une langue alémanique, ce qui est comme si je connaissais, parce que comme ma langue c'est l'hébreu, je reconnais les lettres, mais en fait, c'est une langue alémanique. Donc il y a cette étrangeté de retrouver les lettres de l'hébreu dans la langue yiddish. Hein. Et voilà, donc pour moi, c'est une sorte de mélange de ces deux langues qui, au départ, justement, comme je raconte, j'avais des préjugés contre la langue, et du côté de l'allemand, qu'on ne considérait pas comme une langue, et du côté d'hébreu, qu'on l'a considéré comme la langue de la diaspora, des juifs errants, des juifs méprisés, etc. Tandis que nous, en Israël, on parlait l'hébreu, donc j'avais les préjugés. Mais en même temps, une fois que ces préjugés-là sont dépassés, quand j'ai découvert ici à Paris l'yiddish autrement, en fait, c'est par les deux portes que moi je peux entrer hein, dans cette langue, et par l'hébreu et par l'allemand. Et du coup, évidemment, pour moi, il y a quelque chose de très intime hein, dans ces rapports, en effet, charnels à cette langue. Hein.
Ce rapport charnel Arnaud Bicard, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir aussi, vous qui, comme le raconte Valentina Fedchenko dans le film, qui se trouve être votre femme, avez commencé votre histoire, elle le raconte, hein, c'est pour ça que je me permets, oui. Avez commencé votre histoire en yiddish, qui n'était donc votre langue ni à l'un ni à l'autre.
Oui, alors y a une légèreté pour nous, pour moi aussi, hein, dans le yiddish, une légèreté. On parlait tout à l'heure de la forme de judaïsme qui est associée au yiddish, et c'est vrai que c'est un judaïsme qui n'est pas lié au rituel. C'est un judaïsme qui n'est pas lié non plus à une forme politique trop associée à des problèmes militaires ou d'armée. Donc il y a pour beaucoup de jeunes gens aujourd'hui hein, dans le yiddish, il est assez connu que par exemple il y a tout un mouvement gay ou queer autour du yiddish à New York notamment. Et il y a cette légèreté là qui est un produit construit, hein, construit par des rencontres récentes, bien sûr que le yiddish tel qu'il était parlé dans les années 30 n'était pas particulièrement associé à ce type de mouvement ou de pensée du désir, mais aujourd'hui le yiddish est un espace de liberté, ce qui est un paradoxe et qui est en même temps sa chance et sa force pour les jeunes gens et pour l'avenir.
Alors pour les jeunes gens aujourd'hui, pour les jeunes gens à l'époque aussi, j'imagine Arnaud Bicard, ce que vous dites, est-ce que ça pourrait être un début d'explication ou une piste en tout cas au fait que il y ait eu beaucoup de femmes poétesses qui ont écrit de la poésie en yiddish à ce moment-là, donc dans les années dont on parle, hein, dans les années 20, dans les années 10, 20, 30 en tout cas, qu'elles aient été bien plus représentées que dans des tas d'autres langues. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne pouvaient pas l'écrire en hébreu, ou est-ce que ça veut dire autre chose ?
Alors, ça veut dire ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que effectivement, le yiddish c'était pour elle la langue naturelle, étant donné que contrairement aux hommes, elles avaient été beaucoup moins exposées à l'hébreu. Ceci dit, la littérature hébraïque et de cette période a aussi de magnifiques poétesses. Donc ce n'est pas une explication qui suffit. Je dirais qu'en fait l'une des l'un des facteurs qui a encouragé les femmes à écrire, c'est aussi l'influence des langues slaves ou en tout cas en russe, la proportion de femmes écrivains est plus grande. Et les femmes sont particulièrement représentées dans la poésie. C'est le genre qui a été le plus illustré par des femmes. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une liberté aussi pour elles dans cette langue. Je pense que on peut le voir, notamment encore une fois dans le cas de Deborah Fogel, qui a fui dans le yiddish des choses qui la gênaient. Il y a une
chez
autre
Anna Margolin aussi.
Anna Margolin et Celia Dropkin aussi, donc les trois femmes qui sont représentées dans le film, parce que Celia Dropkin écrivait bien en hébreu aussi et connaissait l'hébreu, mais le yiddish était pour elle quelque chose de beaucoup plus intime.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Poésie yiddish et traduction toujours avec Nurit Aviv, Arnaud Bicard et Gilles Rosier pour un pas de côté antilope. Jewish People's Philharmonic interprétant l'Aude à la joie de Beethoven, mise en poème et en yiddish par Isaac Leib Peretz. Peretz, né en 1852, mort à Varsovie en 1915, poète, dramaturge, novelliste, conteur, conteur d'histoire. Peretz, dont vous éditez, Gilles Rosier, les histoires des temps passés et à venir aux éditions L'Antilope, dans une traduction de Batia Baum, qui, comme ça tombe bien, a également participé comme traductrice au film de Nurit Aviv. Tout ça se rejoint. Cette opération de traduction de Beethoven, mais de Schiller plutôt, qu'est-ce qu'elle dit de Peretz, hein, Gilles Rosier?
Alors, elle dit plusieurs choses de Peretz. Tout d'abord, elle dit que bon, le chant dit en yiddish « tous les hommes sont frères, qu'ils soient de quelque couleur qu'ils soient et quel qu'ils soient ». Donc, c'est son côté socialiste qui ressort, puisqu'elle a eu une période socialiste. Mais elle dit aussi que pour Peretz, la culture yiddish devait être totalement intégrée à la culture européenne et que à partir du moment où l'hymne à la joie était un hymne tellement célèbre, eh bien, pourquoi n'y aurait-il pas une version yiddish de l'hymne à la joie? Ça a été un grand mouvement, hein, non seulement chez Peretz, mais chez d'autres. C'est-à-dire que peut-être la moitié ou un tiers des livres publiés en yiddish sont des traductions d'autres langues. Toute la littérature russe, française du 19e et énormément de choses ont été traduites en yiddish.
Peretz, qui précède tous ceux dont on vient de parler,
c'est souvent leur mentor, en fait.
C'est ça. Qu'est-ce que ces poètes-là, ceux qu'on vient d'évoquer avec Nurit Aviv et Arnaud Bicard, qu'est-ce que ces poètes-là lui doivent à Peretz? Qu'est-ce qu'il met en place?
Alors, déjà, ils lui doivent techniquement le fait qu'il ait eu un appartement à Varsovie où la porte était quasiment ouverte et où ils pouvaient venir lire leurs textes et savoir ce qu'il en pensait. C'était vraiment le mentor dans toute sa splendeur, dans Varsovie, qui, au début du XXe siècle, était vraiment la capitale des lettres juives et yiddish d'Europe. Et il lui doit aussi le fait que toute sa vie, il l'a appliqué à lui-même, il a incité les autres à le faire. Vous avez dit qu'il avait été novelliste, poète, dramaturge, etc. Il est allé dans une langue qui n'était pas encore tout à fait habituée à ça. Il est allé explorer tous les domaines de la langue et de la création littéraire. Et il a vraiment incité les jeunes auteurs à faire de même et à ne pas s'arrêter à oser, à n'avoir aucune frontière, de façon à faire de la langue yiddish une langue intégrale, alors qu'au départ c'était une langue parlée dans la famille, puis ça a été une langue du roman, et puis après ça a été une langue du théâtre, de la presse, de la poésie, etc.
Est-ce que ça veut dire que ça a été, que c'était une langue restreinte et qu'à un moment donné il a fallu l'augmenter, la modifier, la préciser?
Ben, c'est un petit peu comme il s'est passé pour le français. À un moment donné, il y a eu des écrivains pour enrichir la langue de façon à en faire une langue littéraire. Et bien pour le yiddish, la littérature yiddish moderne commence à peu près en 1860. Peretz arrive à la fin du 19e siècle et donc il fait partie vraiment des précurseurs pour lesquels il y avait tout un travail de construction. Peretz a aussi écrit de la poésie pour enfants. Il y avait un travail de construction pour créer une littérature pour enfants qui n'existait pas. C'est vraiment des précurseurs.
Alors lui, il va commencer par l'hébreu, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il commence par l'hébreu. Je crois qu'il s'essaye aussi au polonais, mais il va tout brûler. Et puis, il trouve finalement dans le yiddish sa langue d'écriture. Qu'est-ce que le yiddish peut alors à ce moment-là, pour lui ou pour la littérature, que ne peuvent pas les deux autres, hein?
Alors, à ce moment-là, l'hébreu est, je dirais, encore plus restreint que le yiddish, en tout cas restreint d'une autre manière. L'hébreu est une langue, c'est la langue de la prière, principalement, et donc il va falloir encore plusieurs générations avant d'arriver à l'hébreu de Amos Oz ou de David Grossman, je dirais. Donc le yiddish, quand même, étant une langue de tous les jours, il y a tout le vocabulaire qu'il faut pour décrire la vie de tous les jours, le vocabulaire qu'il faut pour décrire les émotions. Donc c'est une langue qui est sans doute mieux à même, à cette époque-là, en tout cas, de créer une littérature et du théâtre et de la poésie, etc.
Donc vous le traduisez, en tout cas vous l'éditez, pardon, ce n'est pas vous qui traduisez celui-ci, même si vous avez traduit quelques-uns des titres qui figurent au catalogue de l'Antilope, des éditions qui sont nées il y a 5 ans, tout juste, je crois maintenant, cofondées avec Anne-Sophie Dreyfus, déjà 23 titres parus, écrits en français, traduits de l'hébreu, du yiddish, du polonais, il y a là des romans, des récits, des histoires, des nouvelles, des contes, des textes contemporains ou pas, et l'Antilope, prévenez-vous, ce sont des textes littéraires qui rendent compte de la richesse et des paradoxes des cultures juives sur les 5 continents. Qu'est-ce que vous appelez paradoxe dès lors qu'on parle de littérature, Gilles Rosier?
Alors, de lors qu'on parle, la littérature décrit le monde d'une certaine manière, ou les gens, et quand on parle de paradoxe, c'est que je pense pas qu'il y ait une seule, enfin comme disait Arnaud tout à l'heure, il y a tellement de façons d'être juif dans tellement de contextes différents. Pour vous donner un exemple, bon, le yiddish en général décrit une littérature de diaspora, une identité de diaspora. Et l'hébreu décrit normalement une identité majoritaire. Nous avons une auteure qui s'appelle Daniela Carmi, qui fait parler comme héroïne dans son roman, qui s'appelle La famille Yassine et Lucie dans les cieux, une arabe israélienne, donc une arabe qui est minoritaire dans une société juive, et qui s'exprime en hébreu pourtant, enfin en tout cas dans le roman de Daniela Carmi, qui elle-même est juive israélienne. Et c'est aussi ce genre de clin d'œil que nous avons envie de faire à l'Antilope, c'est-à-dire que les textes se répondent d'une langue à l'autre, et c'est ce que j'appelle les paradoxes. Mais l'identité juive est tellement complexe, en général, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que d'être juif, on peut pas répondre en moins de beaucoup, beaucoup de temps, et c'est un petit peu ce dont on veut être le reflet aux éditions de l'Antilope.
Et qui pourrait trouver particulièrement forme, justement, dans la langue yiddish. Pour autant, vous commencez, le premier texte publié, c'est une traduction d'un texte en hébreu, Comme deux sœurs, en 2016, qui est un roman de Rachel Chalita, que vous traduisez d'ailleurs vous-même.
Oui.
En quoi ce roman-là, Gilles Rosier, faisait-il figure de, je sais pas, de manifeste ou de profession de foi? pour ce que vous vouliez défendre avec l'antilope?
Alors, je ne sais pas s'il faisait figure de profession de foi. Ça a aussi été on a commencé par ce texte. De toute façon, quand on est une petite maison d'édition, on peut difficilement commencer par des textes français parce que les gens ne vous connaissent pas. Donc, on a commencé par une traduction d'un livre qui existait déjà, d'un manuscrit qui existait déjà. Ce qui est intéressant sur Rachel Chalita et la relation avec le yiddish, c'est que lorsque j'ai rencontré Rachel Chalita, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est « je veux prendre des cours yiddish parce que je crois que je ne pourrais pas écrire en hébreu, continuer à écrire en hébreu, si je ne maîtrise pas le yiddish ». Et ça, c'est tout à fait passionnant. Pour moi, évidemment, ça faisait écho chez moi, puisque moi, j'ai toujours considéré que je ne pourrais pas vraiment être juif si je ne maîtrisais pas à la fois l'hébreu et le yiddish. Et j'ai dépensé beaucoup d'énergie à apprendre les deux langues et en devenir le traducteur à présent. Donc, je ne dirais pas que Comme deux sœurs était un texte manifeste, mais tout de suite après, on a publié un texte traduit du yiddish qui était le journal d'un garçon dans le ghetto de Vilno, qui s'appelle Entre les murs du ghetto de Vilno. Et je pense que ça voulait dire quelque chose de traduire, de publier coup sur coup de l'hébreu et du yiddish.
Alors justement, pour revenir sur... Parce que là, on s'est arrêté vraiment sur une... Alors, même si c'est un âge d'or, on s'est arrêté sur une toute petite partie de la poésie, de la production yiddish en poésie. On a le sentiment qu'après la catastrophe, après la Shoah, tout ça s'éteint. Alors qu'après la guerre, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes ont été écrits en yiddish, mais peu ont été lus ou diffusés, ou peu ont circulé. Qu'arrive-t-il à cette langue, et surtout à la poésie yiddish, après la Shoah? Une poésie, c'est-à-dire écrite dans une langue dans laquelle on meurt, comme dirait Rachel Hertel.
Oui, alors en fait, il y a énormément de livres qui ont été publiés, des revues qui ont été publiées après le génocide. Hein, peut-être un tiers d'une bibliothèque yiddish est composée de livres publiés après 1945. Il y a en fait, effectivement, c'est d'une certaine manière la langue des suppliciés, mais il y a un regain d'énergie extraordinaire pour exprimer, toujours avec, très souvent avec l'ombre portée du génocide, mais en tout cas un besoin irrépressible de s'exprimer, d'exprimer la mémoire, la douleur, l'expérience douloureuse, et quelques magnifiques exemples. Vous avez cité Sutzkever tout à l'heure, qui a écrit l'essentiel de son œuvre pendant et après le génocide, mais il y en a d'autres, Isaïe Spiegel notamment, ou des tas d'autres auteurs qui ont été tout à fait remarquables.
Alors ça, c'est pour juste après la guerre. Aujourd'hui, alors on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est vrai qu'on assiste à, en dehors de ce que montre le film de Nurit Aviv, à une sorte de renaissance, même modeste, mais une renaissance du yiddish. Alors, pour partie dans les milieux ultra-orthodoxes, donc ça c'est encore autre chose. Et puis là, plus récemment, d'une génération donc qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas non plus été enfant de déportés, qui sont plutôt les petits-enfants et qui viennent au yiddish. Alors, je ne sais pas à quel endroit vous vous placez. Alors, vous êtes plutôt de la première... de la première génération.
Je suis un peu plus âgé qu'Arnaud, par exemple.
Oui, plus âgé.
Et protagonistes du film.
Ça voudrait dire quoi? Qu'ils reviennent au yiddish comme une sorte de retour du refoulé? Qu'est-ce qui explique ce retour du yiddish, et de quel yiddish parle-t-on?
Alors effectivement, dans mon cas, moi j'ai entendu du yiddish quand j'étais petit. Les gens qui sont dans le film, soit ils sont pas juifs, soit ils sont juifs, mais qui ont quasiment pas entendu du yiddish. C'est vraiment la présence, moi je dirais, d'un membre fantôme qui fait encore mal à un moment donné. Et donc qu'on a envie de rebouger, je dirais. Arnaud l'a dit aussi, il y a aussi, je pense que ça agrège souvent des gens qui ont une sensation d'étrangeté, une sensation de marginalité dans leur milieu et qui se passionnent pour le yiddish parce que le yiddish, c'est vraiment la langue du marginal. Moi, c'est notamment une des raisons pour lesquelles le mouvement gay, queer, etc. s'est tellement passionné pour le yiddish. Donc, moi, c'est mon explication.
Nurita Vive, Gilles Rosier, Arnaud Bicard, merci infiniment à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, à la technique, Anthony Thomasson, à la préparation, Thierry Beauchamp et François Connac, à la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et je signale très vite que ce dimanche, les auditeurs pourront intervenir en direct de 22 à 23h, le temps de l'expérience Radio Arbre. Il suffit de composer le 01 56 40 30 60 et de laisser parler les arbres qui sommeillent en vous.